Audiolib présente Insectes de Maxime Chattam. Lu par Emmanuel de Koninck. J'écris et lis avec de la musique. Voici quelques-unes des ambiances que je vous conseille vivement d'écouter pendant votre lecture. Mind Hunter par Jason Hill. Seven par Howard Shore. Mesrin, l'instinct de mort, par Marco Beltrami et Marcus Trump. The Leftovers, par Max Richter. À ma tribu, ma famille, mes amis. Je suis un écrivain qui ne peut s'isoler sereinement pour créer que parce qu'il est bien entouré. Vous êtes ma galaxie. L'homme a besoin de ce qu'il y a de pire en lui s'il veut parvenir à ce qu'il y a de meilleur. Friedrich Nietzsche. Ainsi parlait Zarathoustra. Prologue. Le rocking chair grinçait à chaque oscillation et son mouvement se répercutait sur la latte branlante de la terrasse qui s'enfonçait en gémissant avec la régularité d'une pendule. En guise de balancier, Jenny Fuller donnait une légère poussée sans même s'en rendre compte, réflexe acquis pendant plusieurs décennies. Elle s'asseyait toujours à la même place, à l'angle sud-est pour avoir une vue dégagée sur le potager et le rue, carrefour de toute une faune qu'elle aimait surprendre en levant les yeux entre deux pages. Car Jenny aimait lire. Au-delà du raisonnable, estimait-elle parfois. Et depuis plus de 45 ans qu'elle habitait cette vieille demeure de bois, elle ne dérogeait jamais à son rituel de l'après-midi. Un bon livre à l'abri, sous la marquise. Une couverture sur les genoux durant la demi-saison, ou contrainte et forcée, dans le bow window, juste derrière, pendant l'hiver. Elle éclusait les livres comme certains les godaient à la taverne, buvant l'encre jusqu'à s'en faire des kaléidoscopes d'histoire dans la cervelle, et lorsque ses pupilles se relevaient brusquement, attirées par un craquement suspect près de la rive, deux paysages se superposaient durant un bref instant, celui de ses romans et son propre jardin, sans qu'elle sache très bien ce qui était réel. Jenny était née à Carson Mills, Kansas, et y mourrait probablement sans jamais avoir dépassé la frontière de l'État. Sortir du comté était déjà un événement en soi. La lecture lui offrait le monde sans avoir plus d'efforts à fournir qu'un coup d'index. Bernie, son mari, affirmait que c'était pour ça qu'elle avait développé cette manie de se balancer. Cela lui donnait l'illusion de se déplacer pour de vrai. Ta bascule, c'est la courbe de la Terre, ma chérie. Et dans ta vie, tu as fait plus de fois le tour de notre planète que Spoutnik. Elle ignorait si c'était vrai, et s'en moquait même du moment qu'elle avait un bon livre à dévorer. C'était son principal sujet de préoccupation. Les factures, Bernie s'en chargeait, et la maison avait été payée lorsqu'ils avaient hérité de leurs parents respectifs. En somme, Jenny avait la vie dont elle rêvait. Faire tourner son petit domaine personnel, puis lire. La bibliothèque de Carson Mills avait déjà rendu les armes face à cette boulimique insatiable, et Jenny s'était tournée vers la grande mecque des lecteurs compulsifs, Internet. Elle achetait des lots entiers en vrac. C'était moins cher, plus rapide, et l'obligeait à mettre son nez dans des romans qu'elle n'aurait jamais osé découvrir autrement que parce qu'ils débarquaient dans un carton. Une fois qu'ils étaient sous son toit, elle n'avait d'autre choix que de leur faire un sort tôt ou tard. Revendre était difficile. Elle ne pouvait pas y échapper pour essayer d'équilibrer au mieux ses comptes, mais surtout pour une question de place. Les étagères dressaient déjà une seconde peau au mur de la maison, et Bernie s'était montré compréhensif, mais n'avait jamais cédé lorsque sa femme avait tenté d'envahir le sous-sol qui abritait son atelier, dernier bastion non colonisé par les tranches multicolores. Ce matin de mars, il faisait frais. Une auréole de brume nimbait le cours du rue le long du jardin. Comme tous les dimanches, Jenny ne travaillait pas dans la maison, c'était le jour de repos. Habituellement, elle s'obligeait à rester avec Bernie, il s'asseyait dans le salon, la télévision en fond sonore, et il bavardait de choses futiles, commentait les commérages de la bourgade, ou dressait l'inventaire de ce qu'il fallait faire pour entretenir le jardin ou la demeure. Ce n'était pas très passionnant, mais il s'imposait ce moment ensemble pour ne pas se perdre de vue. Après 40 ans de vie commune, Il était tellement facile de ne plus remarquer cette présence qui faisait partie depuis si longtemps du paysage qu'il devait demeurer vigilant. Des couples finissaient par ne plus se parler du tout. Jenny, elle, était convaincue que si Bernie changeait, ne serait-ce qu'une mèche de sa coupe de cheveux, elle le remarquerait instantanément. Mais ce matin-là, Bernie lui avait pris la main pendant qu'elle buvait son café pour lui dire qu'il savait qu'elle était totalement absorbée dans sa lecture du moment et qu'elle n'était pas obligée de l'interrompre. Il avait lui-même quelques affaires à régler dans le potager avant que les taupes ne finissent par tout saccager, d'autant que les premiers semis n'allaient plus tarder. Une petite entorse à leur cérémonial n'aurait pas de conséquences si elle demeurait une exception. Son homme savait comment la rendre heureuse. Et Jenny se berçait sans s'en rendre compte, un livre entre les mains, sa couverture sur les jambes, vivifiée par la fraîcheur et l'humidité du mois de mars. Elle n'avait jamais aimé les récits horrifiques. Ce n'était pas son truc, les Stephen King et consorts, elle n'y arrivait pas. Pourquoi payer pour frémir alors que le monde était déjà bien assez rempli d'abominations comme ça? Il suffisait d'ouvrir le journal ou d'allumer la télé pour s'en rendre compte. Et puis la peur n'était pas une émotion avec laquelle elle était à l'aise. Se faire déborder, submerger, perdre le contrôle. Quel était l'intérêt de se plonger volontairement dans des émotions qui lui étaient pénibles? Mais elle était parvenue au bout du dernier carton reçu, et il ne restait que ça. Un livre effrayant. Alors telle une junkie en manque, elle s'était promis de chercher un nouveau lot et faute de mieux, elle avait surmonté son aversion et avait entamé la lecture. Contre toute attente, elle y avait éprouvé du plaisir. Ce n'était pas de la peur viscérale, celle qui vous vide les jambes de leur substance qui coulait d'entre ses pages. Non, c'était une décoction ludique d'interrogations, de palpitations, et finalement un voyage vers ses propres limites qu'elle effectuait, avec la sécurité permanente de pouvoir se dire que ce n'était qu'un livre. À tout moment, elle pouvait ralentir le débit pour calmer le jeu, voire l'interrompre. Elle jouait à se faire peur. Et ça changeait tout. Après autant de titres avalés, comment avait-elle pu ne découvrir ce plaisir que maintenant? L'ouvrage mettait en scène un enfant perdu dans une forêt, et tous ses fantasmes les plus anxiogènes prenaient forme au fil des heures de son errance. Jenny en était à l'épisode de l'épuisement, lorsque le garçon finissait par s'effondrer sur un tas de mousse au pied d'un chêne et s'endormait à bout de force. Les insectes avaient commencé à l'envahir les uns après les autres, grimpant sur ses jambes, sous son short, et Jenny pouvait presque les sentir sur elle, au point de vouloir se gratter. C'était admirable le pouvoir qu'avait la lecture sur le cerveau. Il suffisait de lire qu'une bestiole vous sautait dessus pour avoir besoin de se frotter les mollets ou la nuque, convaincu qu'une infâme créature y rôdait. Au loin, Bernie bêchait et traquait les traces de passage des fouisseurs. Une guirlande d'oiseaux pépiait tout autour, discrètement, encore intimidée par la traîne de l'hiver, perceptible dans l'air. Jenny était plongée dans son récit et ne prêta aucune attention aux longs mille pattes s'enroulant à la rambarde qui saignait la terrasse. Il était impressionnant. Comme sorti des pages qu'elle tournait, un demi-bras de longueur, ses anneaux ondulant à chaque mouvement de ses nombreux membres, agrippant le bois sans jamais glisser, ses antennes palpitant devant lui, sondant le terrain. Il avançait sans un bruit, spirale de chitine qui remontait à toute vitesse, décidé, certain de sa trajectoire. Une brise glaciale remonta depuis le cours d'eau et Jenny resserra sa couverture contre elle. Il ne lui manquait que son café chaud, mais elle venait d'en vider une pleine tasse et le médecin lui avait demandé de calmer sa consommation. Ça n'était pas bon pour sa tension. Alors elle focalisa son esprit sur les pages. L'enfant avait un sommeil agité, des cauchemars puissants. Le mille-pattes avait atteint le sommet de la rambarde et filait dessus, serpent luisant d'ébène aux reflets bruns. Il semblait suinter comme s'il exsudait un liquide naturel, lubrifié pour se faufiler par le moindre trou. À l'opposé, dans le dos de Jenny, un petit corps noir déplia ses longues pattes fines qui portaient son abdomen charnu, rond, marbré de taches rouges. Ses minuscules paires d'yeux ne reflétaient que les ténèbres de l'instinct de survie le plus primaire qui soit. Manger. L'araignée passa par une ouverture dans le bois de la marquise et commença à courir, à l'envers, l'énorme boule derrière elle trahissant sa présence. Elle ressemblait à du latex tendu à l'extrême sur une structure rigide. Agile, elle se faufilait partout et fonçait au-dessus de la terrasse. juste au-dessous. Jenny frissonna lorsque l'enfant manqua de se réveiller à cause de tous les insectes qui grouillaient sur sa peau. Elle eut l'impression de ne pas être épargnée. Bon sang qu'elle n'aimait pas ce passage. Et en même temps, elle dut reconnaître son efficacité. C'en était presque drôle. Le mille-pattes se rapprochait de la lectrice, sa formidable mécanique le projetant en avant, antenne à l'affût. Derrière, l'araignée commençait à tourner en rond, en chasse de quelque chose. Bien plus petite que la scolopendre, elle avait pourtant un pouvoir de répulsion largement supérieur. Le mille-pattes évoquait le dégoût, l'araignée, la mort. L'un comme l'autre semblait capable de prendre le dessus. Et l'issue de la rencontre était incertaine à mesure qu'ils se rapprochaient, l'un sur la rambarde, l'autre au plafond. Jenny accéléra le rythme de sa lecture. Elle n'était pas très à l'aise avec les descriptions d'insectes, encore moins quand ils étaient sur le corps fragile d'un enfant. Toutes ces saletés qui cavalaient sur la peau du garçon à la recherche de parties tendres et d'orifices où s'engager, prêtes à découper à la mandibule, à sucer, à piquer, à liquéfier avant d'aspirer, Jenny détestait la précision des détails. Le mille-pattes se dressa sur son arrière, ses antennes palpant l'air à l'instar de vers dodus. Il se rapprocha du bord de la rambarde et ses membres s'agitèrent tandis qu'il était suspendu dans l'air, tout près de l'épaule de Jenny qui ne le voyait pas. Au-dessus, l'araignée descendait à son fil, droit vers la toison argentée de la vieille dame qui oscillait régulièrement sur son fauteuil, un coup dans l'axe, un coup à côté. Jenny se gratta instinctivement le bras au moment précis du récit où un cafard remontait sur celui du garçon, passait sur le duvet, filait sur son cou et escaladait son menton pour palper ses lèvres entrouvertes. Elle eut soudain l'impression d'avoir quelque chose qui lui remontait lentement dans le dos. Elle cessa le balancement le temps de se frotter contre le dossier du rocking chair. Voilà, c'était passé. L'araignée se tenait en équilibre au bout de son trait invisible, à quelques centimètres des cheveux de Jenny. Ses pattes avant s'allongèrent pour tâter le terrain. Jenny allait reprendre son mouvement, l'arthropode se laissa choir juste avant. Jenny, trop captivée par sa lecture, ne s'en rendit pas compte. L'araignée se mit aussitôt à bouger, précautionneusement, dans ce terrain nouveau et potentiellement hostile. Elle se déplaçait sans toucher le cuir chevelu, en équilibre sur ses fines pattes. La scolopendre, elle, continuait de s'étendre, ses anneaux courbés pour lui permettre de former un pont au-dessus du vide. Ses antennes effleurèrent la couverture et aussitôt les crochets à venin se contractèrent, puis la jonction eut lieu. Le mille-pattes parvint à agripper la laine et tout l'avant tracta l'arrière pour lui permettre de glisser sur Jenny. Plongée dans sa lecture et convaincue que ce qu'elle percevait n'était que le fruit de son imagination, la vieille dame ne réagit pas. L'araignée s'introduisit sous les mèches, tout près de l'oreille. La scolopendre disparut dans une longue reptation sous la couverture. Les deux allaient se rencontrer tôt ou tard. Jenny arriva à la fin du chapitre où le garçon fut réveillé par le cafard qui cherchait à forcer un passage entre les dents pour pénétrer dans sa bouche. Elle en était dégoûtée et avait presque envie de cracher pour aider l'enfant à en faire autant. Quelque chose la chatouilla sur le côté droit. Probablement rien, juste un pli de ses vêtements. Puis, un léger grattement sur le côté du crâne qu'elle ignora, habituée avec ses longs cheveux à ce genre de sensation. Araignée et scolopendre se rapprochaient l'une de l'autre. L'une était suspendue à une mèche devant l'orifice de l'oreille, l'autre passait sous la couverture au niveau de la poitrine, fonçant droit vers le cou. Jenny reposa son roman sur ses genoux. Que c'était stressant. Elle avait envie de se gratter partout et de secouer le garçon pour qu'il se lève et chasse toutes ces bestioles de sa peau. Les antennes du mille-pattes caressèrent le dessous de son menton, et machinalement, Jenny y passa la main sans rien percevoir. L'araignée posa ses pattes sur le pavillon de l'oreille, délicatement. Son abdomen énorme ne pourrait jamais entrer dans le conduit auditif. Les pédipalpes tâtèrent le terrain. Jenny secoua la tête par réflexe. « Fichu livre !» râla-t-elle. « Maintenant j'ai l'impression d'être couverte d'insectes !» La scolopendre s'érigea pour atteindre le bas du visage de la vieille dame. et cette fois, Jenny vit la créature sur elle. Elle voulut se redresser, mais le balancement arrière de son rocking chair l'en empêcha, et elle tira sur la couverture pour la jeter au sol. Le mille-pattes était en dessous, immobile. À ce moment, quelque chose s'enfonça dans son oreille. Prise de panique, elle parvint à se relever d'un bond. Lorsque ses doigts entrèrent en contact avec le petit corps mou qui cherchait à s'enfoncer vers son tympan, elle réalisa qu'elle entendait distinctement les grattements de l'araignée qui se frayait un chemin. C'était comme si elle dansait dans sa tête. Le bourdonnement allait crescendo sous son crâne et la rendit folle. Jenny, haletante, ouvrit la bouche en grand pour prendre une respiration, et ce faisant, elle offrit un passage tout trouvé à la scolopendre qui écarta ses crochets à venin. Plus loin, dans le potager, Bernie avait enfin déniché les galeries des taupes, et il s'apprêtait à les enfumer lorsqu'il sursauta au hurlement de sa femme. Il ne l'avait jamais entendu crier ainsi, et il sut tout de suite que c'était grave. Le temps qu'il se précipite, il ne vit ni la scolopendre, ni l'araignée. Seulement Jenny, étendue sur la terrasse, le corps agité de convulsions.